biodiversité, agriculture biologique, environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer, partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpes-Mancelles sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpes-Mancelles.
Le printemps arrivant à grands pas, pourquoi ne pas commencer une petite cure de sève de bouleau aux nombreuses vertus et bienfaits? À ce titre, nous recevons dans les studios de Radio Alpes-Mancelles Patrick Romagnier, bulbiculteur de la sève de la Moissonnière.
Bonjour, alors oui, c'est vrai que c'est ma véritable identité, mais c'est vrai que tout le monde me connaît sous le surnom d'Aldo.
Je vous appellerai Aldo si ça vous convient.
Ça me convient très bien, merci.
Je vous propose de commencer cet échange en vous présentant, ainsi que votre parcours jusqu'ici.
Alors ben voilà, je suis Aldo, j'habite à Serrant-Foulletour, donc dans le sud de la Sarthe. Je vais avoir 60 ans dans l'année. Et mon métier actuel, donc, c'est bétuliculteur. Bétuliculteur, tout simplement parce que je récolte la sève des bouleaux, et les bouleaux font partie de la famille des bétulacées. C'est le terme qui convient, c'est bétuliculteur. Ma vie personnelle, j'ai travaillé dans la fonction publique éducation nationale pendant une vingtaine d'années en tant qu'ouvrier de maintenance. J'ai eu envie un jour de m'installer à mon compte pour faire la même chose, c'est-à-dire faire des travaux divers et variés chez les particuliers et les professionnels. Et puis un jour, je suis allé chez mon pote Pierrot, un ancien collègue, un ami. J'allais chez lui chercher une pièce de rechange pour mettre sur mon tracteur, puisque j'ai besoin d'un tracteur chez moi vu que j'ai une forêt relativement grande. Une fois qu'on a fait notre affaire concernant la pièce de tracteur, il m'a dit, bah tiens Aldo, faut que je te fasse goûter quelque chose. On est sorti et sur l'extérieur, il y avait dans sa cour, il y avait entre autres un bouleau qui était percé d'un petit tuyau avec un bidon en dessous. Il a pris le bidon, il a pris deux verres, il a mis ce liquide complètement transparent, inodore, insipide, dans les verres, et il m'a dit à la tienne. Alors, je suis un peu prudent de nature, et je lui dis, bah oui, bois d'abord. Donc il a bu, moi j'ai senti le produit, inodore, j'ai goûté, je lui dis, mais c'est de la flotte. Il dit non, c'est pas de la flotte, c'est de la sève de bouleau, c'est très bon pour l'organisme. Quand je faisais des chantiers de bois, quand j'étais gamin, je faisais des chantiers de bois avec mon père ou avec mon grand-père, on en buvait, et c'est très bon pour l'organisme. Dans ta forêt, tu dois bien avoir des bouleaux. Faudrait t'essayer. Je rentre chez moi. Dans les années 80, je me suis intéressé à toute la nature qu'il y avait autour de moi. J'ai commencé à faire de l'ornithologie, je me suis inscrit au groupe Sartois d'ornithologie. Après, j'ai fait de la botanique, j'ai fait de l'entomologie, j'ai fait plein de choses comme ça. Et jamais j'avais entendu parler de sève de bouleau. Donc, je vais sur Google, hein, je vais chercher des renseignements là-dessus. Je commence à voir les vertus, les bienfaits de ce produit qui est assez magique pour certaines personnes. Je fais une petite recherche botanique pour savoir si l'espèce de bouleau dont je dispose est la bonne espèce, puisque malheureusement on a un souci à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de gens font leur cure de sève de bouleau chez eux, ce qui est très bien. Mais dans cette quantité de personnes, très peu font la petite étude botanique pour savoir sur quelle espèce de bouleau ils récoltent. Il faut savoir que dans le monde, on a à peu près 150 espèces de bouleau. On a deux espèces qui sont bénéfiques pour l'humain, c'est Betula pubescens et Betula verruqueux. Et dans ces 150 espèces, on a quand même une espèce qui est toxique. Donc il faut toujours faire attention. Quand on va ramasser les champignons, par exemple, on se renseigne de quels champignons on a, parce qu'on sait que certains champignons sont toxiques. Le bouleau, on en a un aussi. Alors c'est vrai que le risque d'avoir la mauvaise espèce est très 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 petit, quasiment infime, mais il faut quand même prendre en compte qu'on a quand même une espèce de bouleau qui est toxique pour l'espèce humaine.
De votre vrai nom, Patrick Romagnier, d'où vient ce surnom Aldo?
Alors ça, c'est un truc complètement complètement bateau. J'ai travaillé chez Renault en 1983. Quand je suis arrivé dans l'atelier, le chef d'équipe qui était sur son secteur m'a demandé ce que je venais faire. Je lui dis, voilà, je suis intérimaire. Ah oui, c'est vrai, j'ai un intérimaire aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Patrick Romagné. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, ouais, moi j'ai envie de t'appeler Aldo. Je lui dis, écoute, moi je suis là pour 4 mois. Tu m'appelles Aldo, tu m'appelles Raymond, tu m'appelles Jean-Paul si tu veux. Moi je suis de passage et puis voilà. Et puis j'ai trouvé ça rigolo. C'est un truc qui m'a bien plu. Et donc, je l'ai gardé et je le transporte avec moi maintenant. Énormément de personnes ne connaissent pas mon véritable prénom. Mon nom, certaines personnes le connaissent, mais mon véritable prénom, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas.
Oui, vous êtes reconnu sous le nom d'Aldo.
Ah oui, depuis 83. Ouais.
Donc, vous êtes installé comme bétuliculteur en Sarthe et plus précisément à Sérent-Foulletourte. Alors, parlez-nous un petit peu de cette activité.
Oui, alors, je me permets de te reprendre.
Oui.
Bétuliculteur.
Au niveau de la prononciation, je suis pas bonne, effectivement.
Bah, bétulacé, donc bétulacé.
Voilà, mais c'est pas commun, donc on entend rarement.
Oui, parce que c'est vrai que.
Parce qu'on dit récolte de la sève de bouleau, voilà. Mais c'est vrai qu'on met pas de nom et on a du mal à concevoir que ça peut être une activité.
Ben voilà, oui, c'est une activité à temps plein avec une période très 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 dense,
intense.
Dense, on va dire là dans les
Là, l'arrivée du printemps, là.
Les jours qui viennent, oui. Et puis bon, c'est un métier complet parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire avec tout ce qui est boulot et dérivé du boulot. Donc, l'activité principale, c'était donc la récolte de la sève de boulot. Donc, qui se récolte généralement, suivant les années, généralement février-mars. Je parle pour notre région. Si on va dans d'autres régions de France, si on va un peu plus dans les montagnes, comme chez mon copain Jean-Louis, qui est à côté de Bagnères-de-Bigorre, qui est aussi bétuliculteur, il va récolter plus tard. Sébastien, qui est dans le Doubs, va récolter aussi un peu plus tard. Et puis bon, les autres collègues et amis, on s'est fait un petit réseau. Les autres collègues et amis, Johanna, qui est en Bretagne, par exemple, va récolter à peu près à la même époque que moi. Et puis Armand, en Touraine, à peu près à la même époque aussi. Enfin, en gros, chez nous, en Sarthe, on va dire février-mars. Pour pouvoir avoir une saison qui démarre en temps normal, avec des guillemets, l'idéal, c'est d'avoir de la pluie à l'automne. Donc là, cette année, on était servi. Du froid. Là, on a eu froid quand même que en janvier, donc relativement tard. J'ai eu assez peur parce que si on n'a pas de froid, dès qu'il commence à faire un petit peu doux, si on est dans les températures positives, 10 degrés en permanence, la nature redémarre. Dès début janvier, les jours commencent à rallonger, donc plus de lumière, plus d'interaction sur l'écorce blanche de l'arbre qui permet de faire monter la sève. Mais on va avoir des inconvénients professionnellement parlant, c'est que les arbres vont donner très 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 peu de sève. Alors, je dis les arbres vont donner très peu de sève parce que chez moi, je ne pompe pas la sève sur l'arbre. Puisque malheureusement, bon ça va être mon premier petit coup de gueule de la matinée, malheureusement on a les industriels de la bétuliculture qui se sont jetés sur cet élixir et font du pompage sur l'arbre. Donc quand on fait du pompage, on en récolte des quantités énormes, ça c'est certain. Alors financièrement c'est très intéressant, mais pour le consommateur, il faut voir une chose, c'est que si tu multiplies la quantité que tu récoltes par 10, tu vas diviser les apports de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines par 10 automatiquement. Puisque la nature a besoin d'un certain temps pour vraiment enrichir cette eau, parce qu'au départ c'est que de l'eau qui se trouve aux racines. La nature donc a besoin d'un certain temps pour pouvoir la transformer et lui adjoindre toutes les bonnes choses, enfin toutes les choses qui vont être bonnes pour nous et surtout bonnes pour l'arbre pour pouvoir fabriquer ses bourgeons. Donc voilà, donc ça c'est la première activité, c'est la récolte de la sève. En gros début février jusqu'à fin mars, jusqu'au jour de l'éclosion des feuilles. Autant le début de saison peut varier énormément. J'ai quelques chiffres depuis les 9 ans que je fais ce métier-là. J'ai commencé une récolte en 2019 le 6 janvier parce qu'on avait eu un petit coup de froid en octobre, début novembre. Et puis après, on était passé sur la douceur. Et donc là, automatiquement, le 6 janvier, on commençait à récolter. Donc le problème, c'est que on n'avait pas beaucoup de quantité de sève. Si on n'a pas beaucoup de quantité, on a automatiquement un pourcentage de zinc beaucoup plus important dedans. Et le zinc est un cicatrisant naturel. L'arbre s'en sert. Lui, il sécrète beaucoup plus de zinc pour pouvoir boucher la blessure qu'on lui a faite. Ce qui est logique, il se défend. Donc ça veut dire qu'on est obligé de repercer les arbres très régulièrement, tous les 3, 4, 5 jours maximum. Moi ça m'ennuie un petit peu parce que ben moi j'aime pas trop faire des trous dans mes arbres, même si je prends soin de bien les reboucher après avec des branches de bouleau vertes. Je vais chercher sur les petits bouleaux que j'ai à droite à gauche parce que j'ai l'avantage d'avoir un peu plus de 9 hectares de forêt. Je vais chercher sur mes petits bouleaux les branches basses que je coupe, que j'écorce et que j'introduis à force dans le trou que j'ai fait dans l'arbre qui m'a donné la sève. Alors, je ne mutile pas les arbres quand je prends ces petites branches parce que le bouleau est une espèce auto-élagante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va pousser, grandir, les branches basses vont tomber naturellement. Donc moi, je ne fais que d'avancer un petit peu le truc en prenant et puis en bouchant. Moi, j'utilise cette méthode-là. Certaines personnes utilisent des pâtes à bois, des mastics, des choses comme ça. Personnellement, je suis contre, puisque la pâte à bois ou les mastics vont devenir très durs. Et il faut voir une chose, c'est qu'un arbre est quand même quelque chose de relativement souple et malléable sur tout le bouleau. Et que si, pour boucher un trou, on met quelque chose de vraiment trop dur, ça va finir par casser. Si ça casse, si ça fait que de se fissurer, c'est déjà très gênant pour l'arbre, puisque une fissure peut apporter de l'humidité. Si on apporte de l'humidité, potentiellement, on peut apporter des champignons. Le bouleau a ça de particulier, c'est qu'il a une écorce qui est extrêmement dure, donc très peu de champignons arrivent à percer l'écorce du bouleau quand il est vivant. Très peu d'insectes aussi. On a quelques oiseaux qui viennent se nourrir un peu de la sève au printemps. Mais donc l'écorce, il y a très peu d'organismes qui passent ces barrages. Mais si, parce qu'on a mis quelque chose de dur qui fissure, l'humidité rentre, les champignons vont rentrer. Et le bouleau donc est paradoxal puisqu'il a une écorce très dure, mais par contre il a un bois qui est relativement tendre. Et quand les champignons rentrent dans le bouleau, il peut le tuer très très rapidement parce qu'ils vont se développer, ils vont manger tout le bois. Quand on s'aperçoit qu'un bouleau est mort, il faut le faire tomber très vite puisqu'il va... En aspect extérieur, on va rien voir. En aspect extérieur, on va avoir l'impression qu'il est toujours voilà, bien en forme. Mais le bois à l'intérieur peut être complètement pourri et tomber à n'importe quel moment.
Et du coup, il peut contaminer les autres ?
Non. Non, il peut pas contaminer... Enfin, pas à ma...
À votre connaissance.
À ma connaissance, non.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. S'acheter de l'air en bar, remplir la balance. Existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre. La veille est pour demain. Des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde. Mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses. Il est grand temps qu'on propose un monde
Et d'un point de vue historique, à quand remonteraient les premières exploitations de la sève de bouleau, ce que vous savez à peu près?
Oui, je sais à peu près. Je sais à peu près des recherches que j'en ai fait. Hein. Les écrits les plus anciens que j'ai retrouvés concernant la sève de bouleau datent du XIIe siècle. Donc c'est pas hier. Donc on parlait des bienfaits sur plein de choses, sur ce qu'on connaît maintenant, sur la vitalité, sur les douleurs. Alors c'est vrai qu'à l'époque ils avaient certainement beaucoup moins de douleurs style arthrose, puisque à ma connaissance l'arthrose c'est un excès de toxines dans l'organisme. Et les toxines, on les stocke principalement en fonction du fait de vivre, ça c'est tout à fait normal. Mais à notre époque, à mon sens, beaucoup plus à cause de tout ce qui est pollution. Tout ce qui est pollution, alors pollution, les gaz d'échappement, tout ce genre de choses-là, le tabac actif ou passif, l'alcool, les plats en sauce, c'est trop le bon, mais n'empêche que ça laisse quand même des toxines. Donc je pense que tous les problèmes d'arthrose maintenant sont beaucoup plus importants à cause de ce genre de choses. Bon, ça c'est ma façon de voir, hein, ça n'engage que moi. Donc alors on avait ça, donc au XIIe siècle, j'ai trouvé des écrits donc qui parlent de la sève à cette époque-là. Et puis dans des époques un peu plus récentes, j'ai trouvé des écrits aussi qui parlent de la récolte de sève de bouleau au printemps pour les gens qui habitaient en plaine dans nos régions par exemple. Quand on habitait en montagne, on n'avait pas de soucis, s'inquiétait pas de ça, parce que les gens buvaient aux sources. Les sources qui sortaient de la montagne étaient automatiquement propres et pures, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on se trouvait dans des régions comme chez nous, là, des régions en plaine, bon, il y avait des petits ruisseaux, alors on n'avait pas les pollutions qu'on peut avoir maintenant, mais quand on buvait dans un ruisseau, on pouvait très bien avoir un animal sauvage mort en putréfaction à 2 km en amont, et avoir des toxines dans l'eau, ce qui pouvait rendre les gens malades. Donc ils s'étaient rendu compte que de temps en temps, ils étaient pas bien en buvant cette eau, et que je pense qu'il y a un petit malin un jour qui a cassé une branche d'un bouleau au mois de février, puis qui a vu ce liquide couler, qui ressemble à de l'eau, qui a dû goûter, et ils ont fini par... ils avaient déjà domestiqué les animaux, hein, et donc ils prenaient des vessies de porc, et ils faisaient la récolte de sève qu'ils mettaient stockées dans les vessies de porc, et il nouait les orifices et il mettait ça dans les ruisseaux pour la maintenir au frais parce qu'il s'était rendu compte que c'est un produit qui est très instable, qui même si au départ fraîche comme celle que j'ai apportée ce matin là, fraîche comme ça, insipide, incolore, inodore comme je te disais tout à l'heure, mais bon apparemment tu connais déjà le produit, c'est un produit qui va lactofermenter très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 3, 4, 5, 6, 10 jours, c'est très variable, suivant plein de critères, va prendre une texture beaucoup plus blanche, beaucoup plus laiteuse, et va prendre un goût de fromage de chèvre de plus en plus fort, ce qu'on appelle la lactofermentation. Alors c'est très très bien, la lactofermentation. Quand on aime ce goût, pour faire une cure, c'est très bien, puisque tout produit lactofermenté a augmenté sa quantité en probiotiques, donc l'efficacité potentielle dans notre organisme. Par contre, c'est vrai que quand ça goûte un bon vieux fromage de chèvre, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas facile
voilà,
à...
Ça plaît pas à tout le monde.
Ça plaît pas à tout le monde. Donc alors, en mettant ça à l'abri de l'air, dans les ruisseaux frais, ils s'étaient rendu compte qu'ils limitaient la rapidité de la lactofermentation.
Justement, on parle un petit peu des bienfaits de cette sève de bouleau. Donc aujourd'hui, quels sont-ils?
Alors ils sont nombreux, mais ils sont adaptogènes, c'est-à-dire ça va vraiment dépendre de chaque personne. Alors avant de parler des bienfaits, je vais quand même parler des contre-indications qui sont très importantes. Toute personne qui souffre d'une pathologie rénale grave ou d'une pathologie hépatique grave ne doit prendre de la sève de bouleau que sur avis médical. Puisque ça va beaucoup faire travailler ce qu'on appelle les émonctoires, donc tous les organes, les reins, le foie et compagnie. Donc si on a une pathologie de ces ordres, ça peut créer une grosse fatigue. Et surtout, la pathologie principale, c'est les gens qui sont allergiques à l'aspirine, ne doivent pas consommer de sève de bouleau, tous les produits salicylés, puisqu'on a l'acide salicylique de façon importante dans la sève de bouleau.
Pas de contre-indication pour les femmes enceintes ou pour les enfants?
Voilà, j'allais y venir. Ça, ce sont des contre-indications qui sont beaucoup plus légères, on va dire. Femmes enceintes, femmes allaitantes et jeunes enfants. Alors, c'est pas dangereux, mais comme on a énormément de vitamines dedans, ça a tendance à surbooster les enfants. Et c'est vrai que quand on donne de la sève de bouleau à des enfants, alors je peux en parler en connaissance de cause parce que j'ai fait une expérience entre guillemets sur ma jeune fille il y a quelques années. Elle faisait la récolte avec moi. Et quand je récolte, donc j'ouvre mes ce que j'appelle mes collecteurs, des appareils que j'ai fait dans lesquels je mets des bouteilles pour récolter la sève. Et donc, je laisse pendre le tuyau, le temps de changer la bouteille, puis de la remettre dans le collecteur. Et donc, elle avait 7-8 ans à tout casser, et elle se mettait sous le tuyau, et elle attrapait les 2-3 gouttes qui tombaient, le temps que je fasse la manœuvre. Bon, j'avais bien vu, c'était pas grand-chose, c'était pas méchant. Bon, j'avais juste oublié qu'à l'époque, j'avais 75 arbres en récolte, et ben donc elle a fait ça pendant plusieurs jours et ben au bout d'une petite semaine c'était une pile une patate phénoménale donc rapidement je lui ai dit non on va arrêter la salle de boulot. J'ai recommencé à lui en donner un peu plus tard quand elle est devenue un peu plus grande, une douzaine d'années, et je me suis rendu compte que les effets étaient les mêmes. Maintenant elle a 16 ans. Elle a commencé à en prendre la dernière au printemps parce que bon, elle est lycéenne, il y a des horaires un peu rallonges. C'est une jeune femme maintenant, et donc là maintenant, je me rends compte que quand elle prend de la sève, ça ne la surexcite plus. Par contre, elle a tendance à se réveiller plus facilement le matin, à être plus en forme, quoi. Donc ça lui donne un petit coup de boost, mais raisonnable. Donc ça, c'est les contre-indications. Après, les grandes vertus de la sève. Alors, quand je parle des grandes vertus, ce sont celles qu'on me rapporte le plus dans ma clientèle. Bon, j'ai 8 ans quand même de recul sur la chose. C'est principalement la limitation des douleurs articulaires. Pour tous les gens qui souffrent de problèmes d'arthrose, d'arthrite, de choses comme ça, de tendinite ou autres, fibromyalgie. Enfin, plein de choses douloureuses comme ça. Il faut toujours avoir à l'esprit que ce n'est pas systématique. Il y a des gens chez qui ça fonctionne très bien, j'en suis la preuve, puisque moi j'ai l'avantage, c'est que depuis que je prends la salle de boulot, je n'ai pas de douleur, je suis en pleine forme. J'ai aussi l'avantage d'avoir une amélioration du sommeil qui, chez moi, est phénoménale. Ça c'est le deuxième grand effet de la salle de boulot. Et le troisième, mais après on en a d'autres, hein, le troisième, ça va être la vitalité, parce qu'on a beaucoup de vitamines dedans. Et comme... Je répète, je ne pompe pas sur l'arbre, c'est l'arbre qui me donne ce qu'il veut me donner. Donc toutes les vitamines sont dedans. Et comme mon produit est intégral, c'est-à-dire sitôt récolté, conditionné, on ne fait pas de pasteurisation. Puisque quand on fait, deuxième petit coup de gueule, quand on fait une pasteurisation, ce qui est très courant malheureusement maintenant chez les bétuliculteurs industriels, quand on fait une pasteurisation, l'avantage c'est qu'on n'a plus la lactofermentation, on n'a plus le goût désagréable. L'inconvénient c'est que la température tue les vitamines. Et les vitamines sont nécessaires pour fixer les minéraux et les oligo-éléments dans son organisme. Donc quand on prend une sève de bouleau intégrale comme la mienne, c'est 98% d'eau. Quand on prend une sève de bouleau qui a été pasteurisée, voire pompée, à mon avis, il reste plus grand-chose que de l'eau dedans. On vend du vent.
Donc la différence entre de l'eau de bouleau et de la sève de bouleau ?
Il n'y a aucune différence. Aucune différence. C'est deux noms différents.
Alors, c'est juste l'appellation.
C'est juste l'appellation. Par contre, il y a une différence avec le jus de bouleau. Le jus de bouleau, c'est une décoction à froid des feuilles jeunes. C'est-à-dire que quand les feuilles sont ouvertes depuis un peu plus d'une semaine, pour être certain qu'elles soient vraiment bien déployées, on les ramasse manuellement, on les met dans une eau, on les fait chauffer à minimum 72 degrés et maximum 85. Donc on pasteurise et on fait réduire la solution pour évacuer le maximum d'eau et conserver les minéraux, les oligoéléments. Par contre, comme on est passé au-dessus de 72 degrés, on a pasteurisé, on a perdu les vitamines. Le jus de bouleau est très connu, mais j'ai arrêté de faire du jus de bouleau puisque j'avais très peu de demandes dans ce sens.
Et concrètement, on parlait d'une récolte, donc une récolte qui s'étend finalement sur une courte période. Vous nous disiez selon, on va dire, le changement climatique, etc., voilà. Qui peut-être vous impacter. Vous avez peut-être vu d'ailleurs un changement avec ce changement climatique. Oui, ça vous a impacté.
Ah oui. Bah, quand je te disais là qu'en 2019 j'ai commencé ma récolte en le 6 janvier, en 2023 j'ai commencé ma récolte le 8 mars.
Oui, donc beaucoup plus tardivement, presque 2 mois.
Alors là, il y a eu plusieurs phénomènes, c'est qu'on a eu chaud, froid pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, de nouveau froid en février, et surtout on n'avait pas de pluie.
Oui, alors qu'il y a 2 ou 3 ans, on a eu beaucoup de pluie.
Voilà. Et là donc en 2023, il a plu 20 mm le 7 mars, le 8 mars, je récoltais, tous les arbres étaient partis parce que Quand on commence à faire la récolte, alors on a des indicateurs dans la nature, d'autres indicateurs d'espèces végétales qui nous permettent de savoir où on en est. Personnellement, c'est beaucoup les chatons de noisetiers, chatons mâles de noisetiers que j'observe. La dernière, j'étais très perturbé puisque théoriquement sur ce qu'on appelle une bouillée en Sarthe, hein, un petit ensemble de noisetiers là, dans la même semaine, tous les chatons mâles vont s'ouvrir, vont donner des grandes petites queues de rat toutes jaunes là en une semaine, c'est tout le monde en même temps. L'année dernière, j'avais un phénomène qui était très bizarre, c'est que sur les mêmes arbres, j'avais des chatons qui n'étaient pas du tout développés, j'en avais qui étaient en cours de développement, et j'en avais qui étaient déjà fanés. C'est-à-dire qu'en gros, sur le même pied, sur la même bouillée de noisetiers, j'avais un delta d'un mois et demi, quoi. Donc j'étais complètement perturbé, je comprenais pas, et c'est là où justement j'ai créé un groupe avec les collègues bétuiculteurs qui sont donc un peu partout en France, comme je citais tout à l'heure, pour savoir où ils en étaient. Et j'ai eu entre autres une réponse de Jean-Louis, donc qui est dans les Pyrénées, qui m'a dit que lui, son indicateur généralement, c'était les jonquilles. Quand il voyait les jonquilles sortir, il savait qu'il allait bientôt commencer à récolter. Et il m'a dit, là, cette année, ça fait un mois et demi que mes jonquilles sont sorties, qu'elles ne fleurissent pas. Donc il y avait un réel problème. Et puis donc le jour où il a plu, dès le lendemain, on a pu récolter. À savoir que quand on fait la récolte, quand on prépare le terrain, la forêt pour la récolte, ça ne sert absolument à rien de percer tous les arbres, de mettre les petits tuyaux, de mettre les bouteilles en dessous et d'attendre parce qu'il ne se passera rien. J'ai eu le cas il y a 2 ans, j'ai vraiment eu la chose qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'est qu'on a percé, on était en février, donc on avait un petit peu de retard parce qu'on était le 13 février. Donc on va percer un arbre, je dis on parce que j'étais avec une personne qui était en stage chez moi. On va percer un arbre, sachant que mes arbres, je les connais, je sais quels sont ceux qui sont un peu plus précoces, quels sont ceux qui vont être plus généreux, quels sont ceux qui vont être un peu plus tardifs. Enfin, ils ont chacun leur caractère, c'est vraiment des individus. Et donc, je vais voir ceux que je sais être un peu plus précoces. Je perce mon arbre, et puis là, le trou était désespérément sec. Je dis, voilà, il est pas prêt, hein, donc on bouchera le trou prochainement. Et donc le lendemain, je refais un essai puisqu'on était déjà au 14 février, donc théoriquement la saison était un petit peu démarrée. Et puis donc je perce un arbre à 10 mètres du premier, quoi, 15 mètres. Et puis là donc celui-là commençait à couler. Donc on installe le tuyau, on installe la bouteille dans le collecteur. Et puis je passe à l'arbre d'à côté, je perce, toc, il coulait aussi. Et je fais comme ça ainsi de suite jusqu'à l'arbre que j'avais percé, donc le 13. Je refais un trou à 2 cm du trou que j'avais fait le 13, on était donc le 14, et sur ce trou-là, la sève coulait. Ce qui veut bien dire que le jour où tu fais le trou dans l'arbre, s'il n'est pas prêt à couler, ça ne coulera jamais par ce trou-là.
Et là, concrètement, vous nous parliez d'une courte période de récolte, donc le reste de l'année, comment ça se passe ?
Alors, on va prendre l'année dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'à partir de janvier, je commence à préparer mes allées de récolte, puisque je suis donc en pleine forêt. Donc je nettoie mes allées de récolte correctement, je pose tous mes collecteurs au pied des arbres, je prépare toutes mes bouteilles dans mes collecteurs avec le tuyau de récolte dans la bouteille et la capsule pour pas qu'il y ait de petites choses qui viennent dedans, même si le trou sur le collecteur est relativement petit. Et puis après, j'observe mes arbres, hein, je prépare tout mon labo de conditionnement et compagnie. Et une fois que la récolte se fait, donc là on a commencé quelques petites quantités là ces derniers jours. Et bien là on récolte, et tous les après-midi, heureusement, j'ai plein d'amis, j'ai des copains qui viennent me donner un coup de main pour récolter la sève. Ce sont des gens qui viennent se promener en forêt, qui repartent avec leur bouteille de sève de bouleau pour faire leur cure. Et puis donc, à partir de la mi-février, on démarre sur les marchés. Alors avant, je démarrais sur les marchés. Maintenant, on démarre sur les marchés avec ma chérie Sabrina. Chacun nos marchés. Et là, ces marchés, tous les jours, nous sommes sur les marchés jusqu'à la fin avril, mi-mai, pour vendre la sève fraîche, puisque la majorité des clients préfèrent consommer de la sève fraîche, même si elle est moins efficace. Donc c'est à ce moment-là où je fais où on travaille le plus. Parallèlement à ça, j'ai inventé un pétillant à la sève de bouleau, une fermentation anaérobie de sève de bouleau avec des sucres et des fruits séchés. Je me suis amusé à faire de nouvelles fermentations l'année dernière en double fermentation, Et je suis tombé sur une recette qui est géniale. C'est vraiment un produit qui est vraiment super super bon. On a un petit peu d'alcool dedans, autour de 2-3 degrés d'alcool. C'est un pétillant donc complètement naturel. Alors celui-ci, il est donc en double fermentation. On a une version au citron et on aura donc cette année une version à l'orange avec de la cardamome, du sucre et de la sève de bouleau et rien, aucun conservateur, aucun produit comme ça, machin. Donc ça, je vais me mettre à faire mes fermentations le plus tôt possible de mon année pour pouvoir l'avoir à vendre le plus tôt possible au mois de mai ou au mois de juin. Quand arrive le 25 mars, généralement les feuilles des bouleaux s'ouvrent, donc là automatiquement la sève primaire, celle qu'on récolte, la sève primaire s'arrête de monter. Donc là, c'est bouchage de tous les trous des 150, 180 arbres que j'ai mis en récolte. C'est démontage de tous les collecteurs. C'est nettoyage de toutes les bouteilles qui ont servi à récolter. Et en même temps, on travaille toujours sur le pétillant. Il s'appelle Bob, comme Bulle au boulot. On travaille toujours sur le pétillant, puisque quand il a fini sa fermentation, enfin la deuxième fermentation, il est mis en bouteille, mais il faut purger les bouteilles tous les jours, sinon les bouteilles explosent tellement c'est virulent. Et donc tous les matins, là cette année, je vais commencer par ouvrir 200 bouteilles tous les jours. Et puis la deuxième semaine, j'en ouvrirai 400, et puis après 600, et puis après 800.
Ça augmentera.
Ça augmentera jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'ai mon premier lot qui va commencer à se calmer et qui va se stabiliser. Et que là, je pourrai commencer à mettre en vente sans que les gens inondent leur cuisine au moment de l'apéro. Après, j'ai aussi un peu plus de 8 jours après l'éclosion des feuilles. Donc qui, elle, la date d'éclosion des feuilles est beaucoup plus stable que la date de début de récolte. Généralement, on est à plus ou moins 3-4 jours après le 25 mars. Rarement plus tard. Et plutôt, je me rappelle pas avoir eu quelque chose une ouverture plus tôt. Et alors, ce qui est assez génial, c'est que sur les 150 à 180 boulots, 200 boulots que j'ai à la maison, l'éclosion des feuilles, tout se fait en 3 jours maximum. Ça va à une vitesse. C'est fou parce que tu vas faire ta récolte. T'es dans une forêt qui est toute grise hein, parce qu'il n'y a pas de feuilles. Hein, les bouleaux sont les premiers à avoir leurs feuilles. Tu t'arrives avec ton petit chariot. Là, j'ai un petit chariot électrique pour faire la récolte. Et t'arrives, tu lèves les yeux et puis tu vois que c'est des houppiers qui sont nus. Et puis t'arrives le matin, il y a 3-4 touches de vertes dans le milieu, et tu dis, ça y est, la saison va finir. Et le lendemain, tu vas en avoir 50, 60, et puis sur le lendemain, tout le monde est ouvert. Donc, quand ces feuilles-là sont bien ouvertes, c'est-à-dire une semaine après, je fais le ramassage de mes feuilles pour faire des tisanes. Je fais le ramassage des feuilles à condition qu'on n'ait pas une grosse chute de pollen de pin, qui se trouve juste à côté, dans les parcelles à côté, on a du pin pas mal. Donc, si j'ai une chute de importante de pollen, je suis obligé d'attendre une pluie pour que ça lave les feuilles. Je suis obligé d'attendre que ça sèche. Obligé. J'ai des conditions de travail qui sont quand même très sympathiques. Donc après, on attend que les feuilles sèchent. Je les ramasse manuellement. Je les mets dans j'ai une petite serre à la maison qui me servait à faire du jardinage. Je les mets donc sur un linge blanc, sur deux tréteaux, sur une planche. Et j'étale ma quantité de feuilles que je vais remuer plus ou moins régulièrement encore en fonction du temps qu'il fait. S'il fait très chaud, faut y aller très souvent. Donc, faut écouter les feuilles. Dans ces cas-là, faut écouter pour savoir à quel degré de séchage on se trouve. On les remue avec la main. Donc, je mets une petite épaisseur de 5-6 cm. Je remue. Et tant que les feuilles froufroutent, je suis pas sûr que le terme soit dans le dictionnaire, hein, mais bon, je pense que c'est parlant. Tant que les feuilles froufroutent, elles sont pas sèches. Et puis, à un moment, elles vont commencer à craqueler. Et donc là, faut revenir plus souvent. Et quand on s'aperçoit que l'ensemble des feuilles craquellent, donc on prend des bocaux, les bocaux de conserve hein, avec des caoutchoucs, on les conditionne dedans, on met un caoutchouc, on ferme et on met ça à l'abri de la lumière et donc à l'abri de l'humidité puisqu'on a un caoutchouc dans le labo. Et au fur et à mesure des ventes sur les marchés, on conditionne les tisanes. C'est-à-dire que je conditionne pas toutes mes tisanes avant puisqu'elles vont prendre de l'humidité et je pense que il vaut mieux qu'elles soient enfermées dans le bocal à l'abri de la lumière et
de manière hermétique,
voilà. Et donc, au fur et à mesure des ventes sur les marchés, on reconditionne les feuilles dans les paquets de tisane. Donc, la tisane, elle, là, on a à peu près les mêmes effets que la sève de bouleau, en beaucoup moins performant, puisque ça se trouve être l'après-dernière étape de la sève primaire, qui se trouve concentré dans les feuilles. Moi, je conseille plus la tisane pour le plaisir gustatif et après avoir fait une cure de salve de bouleau, une bonne cure détox.
Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément. À ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésiant, sans être abrutis de calme, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre.
Dans vos produits, on parlait de la sève de bouleau, mais il y a d'autres produits?
Ah oui, il y a d'autres produits. Donc, j'ai parlé un petit peu des feuilles pour les tisanes. Bah, dans le bien-être, je vais mettre cette année en place la gémothérapie. Donc, les macérats glycérinés de bourgeons. Pour pouvoir faire de la gémothérapie, il faut ramasser les bourgeons à une période très, très, très précise. C'est-à-dire, ça va se jouer sur quelques heures. La sève va donc fabriquer des bourgeons. La sève primaire va fabriquer les bourgeons. On doit ramasser le bourgeon quand c'est vraiment le tout début de l'ouverture du bourgeon. S'il est un petit peu ouvert, si la feuille est à moitié ou voire même un quart développée, il est trop tard pour la gémo, mais pas que pour le bouleau, hein, pour tout ce qui est gémothérapie. C'est vraiment un moment très très précis de l'ouverture du bourgeon. Et donc ça, c'est ramassé manuellement et c'est mis dans des contenants avec un tiers de glycérine végétale, un tiers d'alcool à 96 et un tiers d'eau pure. Et donc ça, on laisse macérer pendant 21 jours. On est toujours sur des cycles de 21 jours, sur plein de choses. Après, on retire ces bourgeons et on conditionne ça dans des petits flacons avec des petites pipettes et on prend ça sous forme de gouttes. Donc là, on prend ça 10 minutes à 15 minutes avant ou après le repas. On commence le premier jour 3 matins, midi et soir, 3 gouttes, un matin, midi et soir dans un verre d'eau. Deuxième jour, on passe à 4 gouttes et après on passe à 5 gouttes et le tout sur 21 jours. Et donc là, on a un effet qui est beaucoup plus... Enfin, qui est très intéressant, parce qu'on a les mêmes effets que la sève crue et intégrale. Hein. L'avantage, c'est que la sève de bouleau, comme je disais, va avoir tendance à lactofermenter et prendre un goût de fromage de chèvre très puissant. Pour les gens qui n'aiment pas ça, ben on peut passer à la gémothérapie à partir du mois de juin, juillet, là où la sève crue aura déjà lactofermenté.
Donc à côté, il y a encore les répulsifs? Moustiques.
Répulsifs à moustiques et à frelons. Oui, oui. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue un jour. Un jour, je me suis rendu compte que les gens qui font du bushcraft, c'est-à-dire de la survie en forêt, utilisaient beaucoup l'écorce de bouleau pour allumer des feux. Parce que l'écorce de bouleau, même quand il pleut, quand t'es sous une pluie battante, tu trouves une écorce de bouleau. Alors, quand je parle de l'écorce de bouleau, c'est vraiment la toute petite pellicule qui fait moins d'un millimètre. Là, vraiment l'écorce complètement extérieure. Cette écorce contient des hydrocarbures naturels qui permettent à cette écorce de s'enflammer très très rapidement avec un simple briquet ou une allumette. Donc les gens qui font du bushcraft utilisent ça pour allumer des feux et en faisant leur feu avec ces écorces de bouleau, ils se sont rendu compte que la fumée qui était dégagée, une fumée un petit peu noire, était répulsive à moustiques. Donc j'ai eu l'idée d'incorporer de l'écorce de bouleau en poudre dans de la cire d'abeille pour en faire des bougies. Pour voir si, pendant que ça brûle au contact de la flamme, si ça fait fuir les moustiques. Et ça marche très bien. Donc pour les gens qui ont des moustiques chez eux, ce que je conseille, c'est une bougie, je dirais, aller une demi-heure, trois quarts d'heure avant de se coucher, d'allumer la bougie. Puis au moment où on se couche, pour les gens qui ferment les fenêtres de la nuit, ferment les fenêtres. Et puis les moustiques sont partis. Ça les tue pas, hein, c'est l'avantage. C'est juste un répulsif. Et au dire de ma fille, qui est donc très sujette aux piqûres de moustiques, elle a généralement des visites assez courantes de frelons dans sa chambre, chez moi, là, dans ma forêt. Du jour où elle a installé sa bougie anti-moustique sur le bord de la fenêtre, apparemment les frelons approchent et repartent. Donc ça serait également répulsif à frelons.
Pour les frelons.
Ouais, pas pour les mouches, par contre, ça marche pas.
C'est dommage, mais on trouvera peut-être une solution naturelle.
Dans le boulot, oui. Il y a encore plein de choses à trouver.
Je reviens un petit peu à cette cure, parce que finalement, on n'en a pas parlé. Une cure que vous nous préconisez sur quelle période, à hauteur de quelle quantité?
Alors la période, il n'y a pas de période pour faire une cure de sève de bouleau. J'en suis encore la preuve, puisque moi j'en fais 3 à 4 dans l'année. Donc c'est en fonction de la dégradation de mon sommeil, principalement. L'organisme humain est beaucoup plus réceptif aux cures détox à la pousse des feuilles et à la chute des feuilles, c'est-à-dire printemps et l'automne. Donc pour les gens qui font une seule cure, moi je dirais que ce serait plutôt au printemps avec une sève extra fraîche qui sera insipide, donc beaucoup plus facile à boire. Pour les gens chez qui le goût de la lactofermentée ne dérange pas, on en fait une au printemps avec de la fraîche et à l'automne avec une lactofermentée. Et autrement, à n'importe quel moment de l'année, il n'y a pas de contre-indication à ma connaissance là-dessus. Par contre, quand on fait la cure avec de la sève, c'est donc 15 centilitres tous les matins à jeun. Première chose qu'on prend en se levant, on prend notre verre de 15 centilitres. Et puis, on peut prendre le café, le petit déjeuner, avec les rillettes et compagnie, tout de suite, juste après, il n'y a pas de souci. Et c'est sur une durée de 21 jours, comme énormément de choses dans la nature sont sur 21 jours. Donc, on fait une cure de minimum 21 jours. Quand on est comme moi, qu'on est directement, récoltant producteur, on peut allonger la cure tant que la sève fraîche coule, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc tout à l'heure vous nous parliez de votre présence sur les marchés, la
oui.
présence également de votre compagne,
oui.
Où est-ce que justement on peut retrouver vos produits?
Alors à partir de la mi-février, vous pourrez nous retrouver, alors je vais vous les donner tous dans l'ordre en vitesse, le lundi la Ferté-Bernard, le mardi l'Émaillé au Mans ou la Boussinière, le mercredi la Flèche, mercredi après-midi Louplande, jeudi matin la Suze-sur-Sarthe, jeudi après-midi dans une ferme à Ivry-le-Pôlin chez Sabrina et Wilfried. Le vendredi matin, les Jacobins. Le vendredi après-midi, très certainement la Godine. La Godine, ça doit être sur Saint-Pavas ou Coulaine, quelque chose comme ça. Le samedi matin, ça sera le Pâtis à Lazare. Et le dimanche matin, ça sera les Jacobins de nouveau. En plus, je fais 3 après-midi de porte ouverte chez moi toutes les semaines, lundi après-midi, mercredi après-midi, samedi après-midi, où vous pouvez venir vous promener en forêt, voir comment on fait pour récolter la sève, goûter au pied de l'arbre, puisqu'on ouvre les collecteurs et on goûte directement la sève qui se trouve dans les bouteilles, et puis faire une belle promenade en forêt. Et donc ça, c'est à partir du 14 février jusqu'à fin mars, puisqu'après fin mars, la sève ne coule plus. Mais après fin mars, ce rendez-vous, je fais visiter ma forêt, mon labo, et j'explique tout.
Donc des produits qu'on retrouve seulement sur les marchés ou qu'on peut également se procurer à distance sur internet ou en vous contactant?
Oui, en me contactant, je peux faire des envois dans toute la France et même plus loin, y a pas de problème, C'est tout à fait un petit tour sur la page Facebook La Sève de la Moissonnière, et puis il y a mon numéro de téléphone, il y a mes coordonnées, je fais des envois un peu partout en France.
Mais justement, je vais vous laisser nous donner vos contacts.
Alors donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 84 91 09 28. Et la page Facebook, c'est La Sève de la Moissonnière. Alors Moissonnière, ça s'écrit MAU2SO2NIERE. Et autrement, tout simplement sur Internet, Aldo, Sève de Boulot, Sarthe. Normalement, on tombe sur un article qui parle de moi.
Aldo, je vous remercie pour votre intervention directement dans nos studios, dans les studios de Radio Alpes-Mancelles. Et je vous dis à très bientôt, et j'espère.
Eh bien, je vous remercie de votre invitation et de m'avoir écouté si longuement.
C'était avec plaisir.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute
it's
of
rough.
Sleep. And I will work
but we're going to take the beginning of this song.
The thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel.
But then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Try